بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخنا الإسلام avant-hier on avait vu le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé par un sahaba, précisément Mu'adh ibn Anas. Non, c'est le hadith rapporté par Mu'adh ibn Anas al-Juhani, dans lequel il relate qu'un homme, sans préciser qui, avait donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs questions concernant l'excellence dans l'accomplissement de différentes bonnes actions et concernant le jeûne. Il avait demandé « فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا » qui sont les jeûneurs qui ont le plus de récompenses. قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم لله ذكرى, ceux qui font le plus de dhikr, qui pensent le plus à Allah. Et on avait rappelé que c'est là l'essence même de tous les actes d'adoration, que d'avoir une pensée permanente d'Allah Azza wa Jal. Et nous allons voir aujourd'hui quelques fawaïd, quelques retours spirituels importants pour le croyant qui essaie de garder son cœur au maximum concentré dans le dhikrullah. On avait vu également le verset Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, dans lequel Allah demande au croyant de faire le dhikr de façon abondante. Et en commentaire, les mufassirin disent que Wallahu azza wa jal la ya'muru bil ikthari min shay'in illa li ahammiyatihi wa 'azimi qadrihi. Il a akhir al kalam, l'auteur dit que lorsqu'Allah demande au croyant de faire quelque chose en abondance, c'est que cette action-là est extrêmement profitable et que ça va lui apporter énormément, énormément de profit. Et donc, on va voir quels sont ces profits. À la lumière des versets et des hadiths, nous allons essayer de voir quelques-uns de ces profits. Premier point, quand un mu'min pense à Allah Rabbul Izzah régulièrement, il faut savoir que cette pensée d'Allah lui permet d'obtenir une protection contre Shaitan. Et la pensée d'Allah casse littéralement le travail de Shaitan sur l'être humain. Très souvent, nous succombons au péché, quelle que soit la nature des péchés, par tentation satanique. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Et justement, la personne qui pense à Allah Azza wa Jal régulièrement, ben, à chaque fois que Shaitan va essayer de le perturber, de le faire chuter, son dhikrullah lui permettra de revenir, de se raccrocher à Allah et de ne pas se laisser aller. Verset du Coran dans lequel Allah a révélé Inna alladhina taqaw, ceux qui ont la piété, idha massahum ta'ifum minash shaytani, lorsqu'une suggestion du diable les touche. C'est bien le waswasa. Lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappelle, c'est-à-dire du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Ça veut dire que la personne qui atteint le degré de taqwa, et en commentaire, nous facilitons ceux qui font le dhikrullah régulièrement, ben, ils ne se laissent pas entraîner par Iblis. Bien au contraire, et à chaque fois que Shaitan vient avec les premières insufflations, mais cette personne pense à Allah et immédiatement revient vers le droit chemin, فَإِذَا مُبْصِرُونَ, et ils redeviennent clairvoyants. Clairvoyant, c'est par opposition, tout ce qui est clairvoyance, c'est par opposition à l'obscurité, aux choses qui sont troubles. Dans le Tabarak al-Ladhi de la Surah al-Mulk, on a que les kuffars, ils sont fi ghurur. Et ghurur, c'est l'illusion. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de connaître, de comprendre, de voir. Ils attendent quelque chose, mais qui en fait ne leur est pas du tout profitable. Ils ne sont pas de le vrai. Alors que le mu'min, il se distingue par la basira, la clairvoyance. Mais pour avoir cette clairvoyance, il faut avoir un cœur en permanence dans la pensée d'Allah Azza wa Jal. Autre verset. Ce n'est pas un verset cette fois-ci, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. Et ce sont là les conseils de Yahya bin Zakaria pour les Banu Israël. Yahya, chez les chrétiens, on l'appelle comment? Jean. Jean, fils de Zacharie, donc, avait donné ce conseil aux Israélites. Et ça a été relaté dans un hadith. Il leur a dit, وأمركم أن تذكروا الله. Et je vous recommande de penser à votre Seigneur, c'est-à-dire abondamment. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره إلى آخر الحديث. Le hadith est un peu long. Il dit, je vous donne comme exemple un homme qui est poursuivi par des ennemis. Et jusqu'à ce que cette personne, donc de cette course poursuite, trouve un endroit où il peut s'abriter. Hisnin, hasinin. Et la personne trouve refuge dans cet endroit. Et lorsqu'il trouve refuge, il se cache. Donc littéralement, ben, les ennemis ne peuvent plus le trouver. Et il est donc en sécurité. Et il dit, كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. Il dit ainsi, le croyant ne trouvera refuge contre les pieds de Shaitan si ce n'est pas le dhikrullah. Et le dhikrullah, donc la métaphore, c'est le dhikrullah, c'est cet endroit où le croyant trouve protection et refuge. D'accord ? Et c'est d'ailleurs pourquoi le petit livret qui s'appelle Hifznul Muslim, le livret de dua, donc, que l'utilise un peu tous les ans, un petit livret de recueil, vous connaissez, où il y a des doigts et il y a traduction en français, ça s'appelle Hismul Muslim, c'est la protection, c'est un endroit où on trouve refuge par les adhkar. Alors deux, donc premier apport, c'est que ça éloigne le diable et ça te protège contre ses attaques. Et on a grandement besoin d'être, on ne peut pas se vacciner contre Shaitan. Hein, docteur, il n'y a pas de vaccin. Non, quand on est petit, on ne peut pas dire vaccin anti-blis. D'accord, anti-blis, tel dosage, on pique les enfants, ils sont protégés, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus un cardiologue qui peut te faire l'opération de la poitrine. Quand le professeur Salam avait subi, quand il était jeune, où les anges avaient retiré son cœur, l'avaient lavé du verbe laver, avec de l'eau, des zamzam, dans un récipient en or, et ils avaient remis son cœur. Ça, c'était un miracle qui vient d'Allah. Et le but, c'était d'enlever le sang noir qui pousse l'homme à accomplir des péchés. C'est-à-dire que le professeur avait un cœur pur. Rien qui ne le poussait vers le mal de son cœur. Mais de nos jours, aucun cardiologue, aussi fort soit-il, ne peut pas prétendre procéder à l'opération de la poitrine, donc pour nous protéger du diable et des insufflations sataniques. Non. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'avoir le cœur dans le dhikrullah pour être protégé des attaques du diable. Les attaques du diable, ça se manifeste quand tu es dans la rue, par rapport au regard. Ça se manifeste quand tu es en assemblée. En fait, plus on est entre camarades et l'ambiance est cool, plus on a envie de se lâcher, et là de parler de tout et de rien, jusqu'à ce que ça sombre vers le dunya, le rafla, le riba, le bohtan, le namima, les mensonges et colportage, ainsi de suite. Mais quand Shaitan, il aime ça, cette pente glissante là, mais là le mu'min, il se ressaisit. Il ne tombe pas dans le piège de Shaitan parce qu'il a un cœur qui pense régulièrement à Allah, et ainsi de suite, pour n'importe quelle situation de péché. Deuxième apport spirituel très fort et concret qui nous aidera directement dans notre vie tous les jours, par la pensée d'Allah, cela apporte la joie de le cœur, l'apaisement du cœur. On a une époque où la vie, les événements de la vie, les contraintes, les obligations sont extrêmement prenants et stressants. Tout le monde est stressé, même les gens, les enfants, les jeunes, tout le monde est stressé de nos jours. Et nous recherchons tous ce qui peut apporter un peu d'apaisement et de tranquillité du cœur. On en avait parlé il y a quelques jours. Certains vont prendre de l'homéopathie, c'est plus remboursé, il paraît que ce n'est que des granulés de sucre, hein, ça va. On en a pris des tonneaux, khairan. Certains vont prendre des plantes et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout le monde cherche quelque chose pour soulager un peu, lâcher un peu la pression. Parce que les cœurs sont comprimés par les préoccupations du dunya, le stress, et d'une façon générale, même s'il n'y a pas de situation stressante, on va dire que ce dunya n'apporte aucune tranquillité au cœur. Et c'est une illusion, ça fait partie des rourour du kafir, et parfois même du rourour du musulman, qui finit par se dire que plus je vais réunir les conditions de confort, plus j'aurai le cœur tranquille. Il va se dire que si je veux être tranquille, il faut surtout ne pas habiter à Saint-Clotilde, ni au Chaudron, ni au Maïn là-bas, ni dans un HLM, parce que je ne vais pas être tranquille. Si je veux être tranquille, il faut que j'aille habiter la montagne, d'aller au Belpire. Là, je prends une villa avec une vue plongeante sur la mer, avec une piscine, avec une grande terrasse. Là, j'aurai la tranquillité du cœur. Si je veux être tranquille, il ne faut surtout pas que je regarde mes matchs de Ligue des Champions avec une petite télé comme ça. Non, il me faut le grand LCD qui fait 1 mètre, bien étiré. Et là, ça va me procurer un plaisir. Si je veux être heureux, il faut que j'ai le dernier modèle de machine à café, parce que là, je vais boire mon café, ça va être bon. Si je veux être heureux, il faut que mon frigidaire soit plein. Il faut que j'ai du poulet, du bœuf, des poissons, crustacés, langoustes, homards. Là, mon ventre sera plein, donc je serai heureux. C'est-à-dire, on fait une relation entre les plaisirs immédiats, d'accord? Et la tranquille du cœur, ce qui est totalement, totalement faux. Nombre de personnes qui sont célèbres, immensément riches, mais qui ne trouvent pas cette tranquillité du cœur, parce que Allah Rabbul Izzah a promis que Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah a promis que c'est par la pensée d'Allah que les cœurs trouvent le tama'nina, c'est la tranquillité. Un mot, nourdou, c'est tien. Nourdou, en gujati, je ne sais pas. C'est quand on a cet apaisement. Et c'est uniquement par le dhikrullah. Et on peut essayer n'importe quel autre moyen. De ce dunya, personne ne trouvera la tranquillité si ce n'est pas la pensée d'Allah. On peut parfois trouver une tranquillité, mais c'est temporaire. Vous êtes fatigué, stressé, vous quittez tout. Allez, vous allez en vacances. Vous allez aux Seychelles, je ne sais pas où. Hôtel 5 étoiles, pieds dans l'eau et tout. On a l'impression que, ah oui, là, je retrouve la tranquillité, je lâche un peu la pression, oui. Mais je vous assure, au bout de 2 jours à 3 jours, lorsqu'il y a une certaine lassitude, le niveau de stress remonte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence fuir. C'est pas une vie, ça. Si on veut une tranquillité permanente, ben, il faut aller vers le chemin qui a été tracé par Allah, Rabbul Izzah, la pensée divine. Parmi les apports spirituels directs de la pensée d'Allah, anna sahibahu, et que la personne a cet honneur d'être citée par Allah. Et ça, c'est un hadith qu'on avait dit. Fa'in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Si le serviteur pense à Allah intérieurement, Allah pense à lui comme Allah sait le faire. Et s'il pense à Allah dans une assemblée, comme nous sommes en train de le faire et qu'Allah accepte, on a espoir qu'Allah nous mentionne également dans l'assemblée des malaïka, certainement en rappelant qui était présent pour parler de lui, qu'Allah nous accorde cet honneur. Parmi les apports directs du dhikrullah, annahu yahuttul khataya, c'est que cela permet au serviteur de voir ses péchés effacés et d'être protégé contre le châtiment divin, le châtiment d'Allah. Quand le prophète dit hadith, ma amila adamiyun amalan qatt anja lahu min adabillah min dhikrillah. Jamais l'être humain n'aura accompli une action qui le protégera autant du châtiment d'Allah que le dhikrullah. La pensée d'Allah, ça nous protège contre le châtiment divin. Et enfin, on va s'arrêter là, mais il y a beaucoup d'autres points à citer. On a juste à lire les livres où il y a les vertus de dhikr, c'est énorme, c'est gros, il y en a par centaines. Nous, on a essayé juste de suivre le tartib de l'auteur pour avoir quelques points qui nous interpellent directement. Il dit que yatarattabu alayhi min al-ata wa al-thawab wa al-fadli, on trouve des récompenses, des rétributions qu'on ne retrouve pas dans les autres actions. Alors que ça fait partie des actions les plus faciles, qui ne nécessitent pas un état d'ablution ou d'être dans un endroit ou avoir les moyens et ainsi de suite. Non, c'est comme on l'avait dit, en marchant, en descendant l'escalier, en montant, peu importe, faire le dhikrullah au maximum, et il n'y a pas besoin d'avoir le tasbih, le sabbahad à la main, aucune nécessité. Le dhikr, on le fait intérieurement, c'est suffisant. Et l'auteur cite un exemple. Et cet exemple, j'espère, si on le cite aussi, c'est que on aimerait que tout le monde puisse le mettre en pratique, incha'Allah, dès demain. Qala alayhi salatu wa salam, hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, qui est cité dans Bukhari et Muslim. Donc c'est du lourd. Anna al-Nabi alayhi salatu wa salam, qala man qala la ilaha illallahu wahdahu. La sharika lahu, lahu al-mulk, wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout le monde connaît ce dhikr. Nous, on appelle ça comment? Dans l'enseignement classique, on appelle ça le quatrième kalima. J'ai jamais compris pourquoi on a numéroté non plus. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais on l'appelle comme ça. On appelle ça le kalimatu tawhid. Donc c'est un dhikr qui est connu de tous, même des enfants. Fazam dit que celui qui le lit mi'at marra fi yawmin, qui dans une journée le lit 100 fois. Donc on va dire idéalement 100 fois d'affilée. Ça prend 12 minutes ou 15 si vous faites bien. Vous le lisez posément, correctement. Alors celui qui le lit 100 fois, qu'est-ce qu'il obtient ? Kanat lahu, Allah Rabbul Izza lui accorde l'équivalent de d'avoir affranchi 10 esclaves. Et ça c'est une petite parenthèse. Quand on a des bonnes actions, on dit que Allah te donne la récompense du fait d'affranchir un esclave. Tout ça, ça montre que dans l'islam, le prophète sallam, à travers ses enseignements, a longuement encouragé les sahaba à affranchir les esclaves qui existaient encore. Et ça, un jour on en parlera. L'esclavage, c'était pas comme il y a eu en Occident jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Non, c'était des captifs de guerre. Donc, dans toutes les civilisations, les cultures, dans toutes les nations, c'était quelque chose de tout à fait légitime. C'était comme ça la guerre à cette époque, c'était les règles, et qui étaient acceptées par toutes les nations. Depuis les Grecs, avant donc l'islam, les Romains, en même temps que l'islam, les Perses, Faris, et c'était tous la même règle. Vous faites la guerre contre un peuple, et si vous gagnez, ben, vous prenez leur terre, leur bien, et les guerriers deviennent vos esclaves, et vice-versa. C'est quelque chose, ce n'était pas vécu comme une injustice. Et au contraire, c'était laisser la vie sobre à ses guerriers. Et donc, le prophète sallam, donc rien à voir avec ce que à la Réunion on a connu, où les navires allaient vers des côtes du Mozambique ou autre et volaient des enfants, les métiers dans les bateaux et les amenaient en France, en Hollande, dans différents pays pour les réduire l'esclavage. Ça, c'était kidnapper et voler des êtres humains. Donc, vous voyez qu'il y a une différence déjà. D'accord ? C'était pas du tout la même chose. Et malgré ça, le prophète a encouragé les sahaba à affranchir des esclaves. Et le premier qui a été affranchi, c'était Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. C'était au tout début de l'islam. Au tout début, ce qui fait que Bilal était parmi les premiers musulmans. D'accord ? Qui souffrait avec un maître qui l'imposait des tâches lourdes et qui le frappait. Le prophète Ibn Abu Bakr achète cet homme et accorde lui sa liberté. Et il a proposé un prix qui était tellement élevé que je ne sais plus comment il s'appelait, le maître de Bilal, il a rigolé. Il a dit, mais ça ne vaut pas autant d'argent pour un esclave, excusez-moi, d'accord ? Et Abou Bakr dit, c'est pas grave. Il voulait absolument l'avoir parce que Prasam a dit, il faut l'acheter. Et ben, le maître était content d'avoir autant d'or pour un esclave qui pouvait n'avoir aucune valeur. Et Abou Bakr a franchi Bilal ibn Rabah qui est devenu un des plus grands croyants de l'histoire de l'islam, avec un cœur rempli d'amour pour Allah. Et symboliquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé cet honneur de donner le premier adhan sur le toit de la Kaaba. Et le prophète n'a pas accordé cet honneur à d'autres personnes. Personne des Banu Hashim ou parmi les Quraysh ou même gendre ou Abou Bakr Siddiq, aucunement. Il a accordé cette honneur à Bilal ibn Rabah parce que c'était un homme exceptionnel et qui avait l'amour d'Allah dans son cœur. Et à Madina Munawwara, c'était également le muadzin officiel. Et le prophète sallam avait dit également à propos de Bilal qu'il entendait ses pas dans le Jannah. Ajib ça quand même, subhanallah. Vous savez, à l'époque, chez les Arabes, c'était une société profondément raciste. Il fallait être arabe, idéalement Quraysh ou autre, c'est-à-dire de grandes tribus, pour avoir le droit d'exister officiellement. Autrement, si on est de petites tribus, on ne vous donne aucune importance, personne ne prendra votre avis dans des décisions. N'en parlons plus l'étranger, n'en parlons plus celui qui est de peau noire, esclave, descendant d'esclave. Cette personne, ça n'a aucune valeur. Et le prophète m'a montré que avec Allah, avec Tawhid, avec Ahad, Ahad, c'était son dhikr. Hein, Ahad, Ahad, qu'il n'arrêtait pas de dire, ben, il est devenu une des personnes les plus importantes dans l'histoire de notre dîn. Donc, alors, tout ça, on est parti très loin. Donc, ça me dit que celui qui lit 100 fois le dhikr qu'on vient de citer, Allah lui accorde la récompense d'avoir affranchi 10 esclaves. Deuxièmement, au kutibat lahu mi'atu hasana, Allah inscrit dans son livret de compte 100 bonnes actions. 100 unités de récompense. Alors, quel genre de hasana, quelle grandeur, quelle grosseur, quel poids, personne ne peut savoir. C'est quoi une hasana? On ne peut pas On ne peut pas quantifier et dire que ça pèse. Allah seul le sait. Mais on sait que quand Allah donne, c'est qu'Allah est généreux. Quand quelqu'un de très riche, imaginez, un millionnaire, un milliardaire, te dit, tu prends quoi ton nom ?
Salman.
Salman, enchanté. Il dit, Salman, passe dans mon bureau. J'ai quelque chose, mais vraiment de bien pour toi. Ok ? Et que le frère, toi, tu t'appelles comment ? Abdul Malik. Et Abdul Malik dit, passe me voir à Chaudron là-bas, près de la mairie, j'ai un truc pour toi. C'est très bien que lui, il va lui donner un sandwich bouchon. Un moitié, on va partager un sandwich bouchon. Mais le millionnaire qui te reçoit de son bureau, 50e étage de sa tour, et voilà, et tout, tu sais que ça va être quelque chose de bien. Parce que quand, si c'est quelqu'un de généreux, hein, d'accord, quand on sait que quelqu'un qui est généreux t'appelle pour te donner quelque chose, on sait que le cadeau sera à la hauteur de sa générosité. Quand Allah qui est Al-Ghani, le riche, déjà il a tout. Il est Al-Kalim qui aime donner, Al-Jawad qui est généreux, et qui dit Hassanam, on sait que c'est énorme. Et sans unité de bonnes actions, imaginez que vous le faites tous les jours. C'est-à-dire, dans une année lunaire, ça fait 360 multiplié par 100. Ça fait combien ? 36 000. Et vous savez que le jour de Qiyama, « Famayyam mithqala dharratin khayran yara »« Mithqala dharra »« Mithqala dharra » ça a été traduit comment ?
Un atome.
Un atome, un iota. Dans d'autres métaphores, on parle de l'équivalent d'un grain de moutarde. C'est-à-dire, les unités les plus infimes, elle est la plus petite bonne action, vous le verrez. Mais que dire de ces 100 réguliers et 36 000 en une année, et on le fait tout le temps. C'est-à-dire que ça, le jour de Qiyama, nous, à notre niveau, quand on a lu ça le matin 10 fois, on a oublié qu'on a lu. Après, on trace, on fait notre journée. Mais on n'imagine pas qu'au bout du compte, ça fait des montagnes de hasanat que le mu'min retrouvera dans son livret d'action. Et ça, ça doit le motiver pour le faire, pour le lire tous les jours. Ne laisse pas passer un jour sans le lire. Et ça, ça s'appelle « ihtisab ul-ajr », espoir de rétribution, conviction qu'Allah va me donner. Donc, faire au maximum et le faire correctement. Donc, ça, ce sont les 100 hasana. « Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a ». Moi, je signerai tout de suite pour celui-là. 100 péchés sont effacés de son livret de compte. Vous vous rendez compte, 100 péchés ? 100, c'est énorme. Allah seul sait dans une journée combien de péchés on accomplit. Imaginez que la lecture de mes 100 dhikrs de dimanche matin ait effacé tous mes péchés de samedi, uniquement. C'est déjà énorme. C'est-à-dire que en un an, c'est 36 000 péchés qui ont été effacés. Mais subhanallah, on sait que les péchés vont peser dans la balance. Et il ne faut surtout pas que les péchés soient plus lourds que les bonnes actions. Mais ça, c'est un dhikr qui nous permet d'effacer... de nettoyer notre livret de péché. C'est quelque chose qui est énorme, ce qu'Allah nous accorde. Et wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu, et Allah lui accorde la protection contre Shaytan ce jour. Là, on retrouve le vêtu qu'on a dit tout à l'heure, protection contre Shaytan, hatta yumsi, jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il se couche. Et personne wa lam yati ahadun bi afdal mimma jaa bi, il n'y a personne de ce monde qui aura obtenu quelque chose de plus fort que cette personne-là, en termes de récompense, sauf la personne qui a fait plus que lui. Au lieu d'avoir fait 100, il a fait 150 ou 200, ben voilà, il a plus de récompense. Mais ce verset, ce hadith, pardon, avec ce dhikr, nous permet de réaliser que cette lecture régulière de dhikr nous apporte énormément de récompenses, protection contre Shaitan, et également, on voit nos péchés effacés. Voilà donc quelques vertus de la pensée d'Allah. Et il était essentiel de les citer. On a d'autres, peut-être demain on fera encore un petit peu, mais il était important de le faire parce que on a besoin de mettre tout ça en pratique pour être protégé contre Shaitan et donc de ne plus chuter vers les péchés, mais également obtenir toutes ces récompenses, et on en a grandement besoin. Qu'Allah nous accepte et nous donne tawfiq dès demain d'accomplir cette action de lire 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin pour obtenir sa récompense. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.